Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. 19e partie, les noces de l'agneau.
Apocalypse, nous allons entrer dans la méditation du chapitre 19, et j'en rappelle tout simplement le titre, les noces de l'agneau, la seconde venue de Christ, avec ce qu'il est appelé la bataille d'Armageddon. Alors on va voir tout cela ensemble. Permettez-moi d'abord de faire un petit rappel dans le dernier sujet, le chapitre précédent, au chapitre 18 naturellement, nous avions évoqué la chute de Babylone, vous savez, celle qui s'appelle la grande prostituée. Et cette chute de Babylone a entraîné la désolation des puissants de la terre, les rois, les chefs militaires, tous ceux qui sont élevés en dignité, etc. Et on apprend et on a appris qu'ils avaient tout perdu. Ça avait été un effondrement mondial. Sur le plan politique, sur le plan économique, enfin, en tout. Et à cette ruine, et c'est ce qui nous introduit dans le chapitre 19, à cette ruine de Babylone succèdent des chants de triomphe dans le ciel. Alors, pour être surpris, on va en parler. Ainsi, sur la terre, jamais aussi effroyable catastrophe n'a eu lieu, alors que dans le ciel, et on va le découvrir, explose l'allégresse. Alors c'est vrai que c'est assez choquant comme présentation et comme introduction, parce que est-ce que l'on peut se réjouir du malheur de la terre des hommes ? Voilà, la question est posée. Alors on va donc revenir à ce chapitre 19 et écoutez bien ce qu'il nous est dit au verset premier. Après cela, donc après cette catastrophe mondiale, après cela j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Alors comment expliquer cette allégresse ? Elle a plusieurs raisons et on va en définir les causes maintenant. La première raison en est l'explication qui nous est donnée au verset suivant, c'est-à-dire 2 et 3, et je poursuis ma lecture. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia » et sa fumée monte au siècle des siècles. Après tant et tant de souffrances, d'injustices et de souillures de toute nature, de feu et de sang, voilà que les créatures qui sont dans le ciel, les créatures célestes, marquent leur soulagement. C'en est fini de toutes ces choses épouvantables, toutes ces monstruosités dans lesquelles le monde a été entraîné et qui a produit tellement de malheurs, de drames et de détresse. Alors, donc, nous voyons dans le ciel, là, il y a comme un soupir de soulagement, parce que Dieu, en jugeant la grande prostituée, démontre enfin la nature de sa justice. Et la nature de la justice de Dieu, elle est parfaite. Et il va juger donc celle qui corrompait la terre par son impudicité spirituelle, et surtout, qui livrait les chrétiens à la mort, et désormais, toute opposition à Dieu est étouffé pour toujours. Voilà l'introduction de ce chapitre 19. Il est simple. Le rétablissement de toute chose est proche, parce que nous arrivons bientôt au dénouement de l'histoire humaine, à l'histoire des hommes sur la terre, qui a commencé au moment où Dieu a créé, finalement, l'espèce humaine, et à travers tous ces rebondissements, à travers tout ce qui a été entrepris dans ce monde, sur notre planète, et qui... On peut le dire, puisque le livre de la Genèse le déclare, où Dieu, lorsque il a regardé l'homme, il a vu que toutes les pensées de son cœur étaient tournées chaque jour, quotidiennement, et bien vers le mal. Donc, on approche maintenant de la fin. Et toute chose va être renouvelée. Mais voici une autre cause de se réjouir. Ce sont les noces de l'agneau. Et les noces de l'agneau nous sont présentées tout simplement à travers le verset 6, quand il est dit ceci, « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Et je poursuis, « Réjouissez-vous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Voilà. Donc la première chose, vous l'avez compris, c'est parce que le temps est arrivé pour Dieu de mettre un terme à l'iniquité, à l'injustice, à toutes ces choses abominables et finalement insoutenables qui ont perduré pendant des siècles, des dizaines de siècles. Et puis la deuxième raison de cette allégresse dans le ciel, c'est qu'il va y avoir ce que nous appelons et ce que la Bible appelle tout simplement les noces de l'agneau. Le sens que l'on donne au mot « noces », on sait tous ce que ça veut dire, est ce qu'il y a de plus sacré. Oui, peut-être que de nos jours, les noces ou l'alliance ou le mariage ou les épousailles sont peut-être pris beaucoup plus avec de superficialité. Mais à travers les usages, à travers l'histoire, à travers les temps et les générations, à travers l'explication que nous en donne la Bible, c'est quelque chose de sacré. L'union pour la vie de deux êtres qui s'aiment, c'est ça. Il y a à la base, non pas un compagnonnage, non pas finalement partager la vie pour... enrayer la solitude. Mais le fondement de cette union, c'est parce qu'il y a l'amour. Et ici, trouve sa pleine signification que Christ, entrant dans son règne éternel, c'est l'introduction, s'unit avec l'Église, son épouse, c'est-à-dire des hommes et des femmes qu'il a sauvés, qui ont cru en lui, qui ont accepté son sacrifice rédempteur, qui ont compris la valeur du don de Christ à travers sa mort expiatoire. Donc, c'est une union, elle est sacrée, et c'est cette réunion, donc de l'Église, qui est appelée son épouse, et tous ces chants d'acclamation ont pour objet de le faire savoir à la face de l'univers entier. Ouais. C'est pas quelque chose de secret, c'est pas quelque chose de privé. C'est pour ça qu'il y a ce retentissement dans le ciel. Et du ciel, ce retentissement et cette allégresse redescendent sur la terre. Je le rappelle, parce que maintenant, la grande prostituée, la fausse, celle qui se faisait passer pour l'Église de Christ, mais la fausse Église, l'Église apostate, a été vaincue. Et tous ceux qui l'ont suivie, eh bien, vont être éliminés hors d'état de nuire. Et puis, la deuxième chose, puisque la fausse est dénoncée, puisque cette Église impudique, eh bien, va disparaître, est éliminée, la vraie va apparaître. Il ne pouvait pas y avoir de cohabitation, ce n'est pas possible. Même si en apparence, pour les hommes de la terre, dans les chapitres précédents de l'Apocalypse, il pouvait y avoir une confusion. Est-ce véritablement l'Église? Est-ce que c'est l'Église chrétienne? Alors on l'a vu, on en a parlé suffisamment. Elle avait toute l'apparence, la phraseologie, toutes les apparences extérieures peut-être de l'Église de Dieu, mais ce n'était pas l'Église de Dieu, au contraire. C'était une imposture. Donc, on voit que l'une disparaît et l'autre apparaît. C'est pourquoi, dans le ciel, il y a ces acclamations. Et vous l'avez vu avec moi, il est dit « Alléluia !» Gloire à Dieu. Quatre fois, c'est répété. Louez l'Éternel. Alors, je reviens un petit peu en avant. Et nous allons lire maintenant eh bien, ce qui nous est dit au verset 4 et 5, justement à ce sujet. Il est dit cette parole « Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Voilà. Tout le monde céleste, monde angélique, les séraphins, les chérubins et tout ce que peut comporter Eh bien, cette multitude, ces myriades et ces myriades d'êtres célestes sont en train de proclamer l'avènement de Jésus. Et cet avènement va se faire à travers ce fait particulier des noces de l'agneau. C'est important de le souligner. Aucun mot ne peut décrire cette adoration sublimée. C'est pas possible. Réjouissez-vous, verset 7, je reviens. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Ce symbole nous fait comprendre l'intimité et l'amour qui lie l'agneau, c'est-à-dire Christ, le Fils de Dieu, à son épouse glorifiée. Celle-ci étant parvenue à la pleine maturité spirituelle. Parce que si nous écoutons l'apôtre Paul, eh bien il nous parle de cette église glorifiée. Nous sommes encore l'église souffrante, l'église militante, l'église combattue. L'Église ignorée, si vous voulez. Mais nous allons. Et il y a déjà l'Église qui est glorifiée, une partie de l'Église, ceux et celles que nous avons connus dans notre temps, et qui ont déjà rejoint le Seigneur Jésus, qui sont morts dans le Seigneur, qui sont morts dans la foi. Ils se reposent de leurs œuvres, ils sont dans la présence de Jésus. Et c'est cette Église qui a eh bien, c'est perpétué pendant des siècles et des siècles. Et si le Seigneur n'est pas revenu de notre temps, alors à ce moment-là, nous irons rejoindre ces bien-aimés, ces hommes et ces femmes, ces frères et ces sœurs, ces chrétiens. Maintenant, si le Seigneur revient et nous en parlerons la prochaine fois, eh bien, vous verrez que nous serons emportés en un clin d'œil et nous rejoindrons et nous serons réunis avec cette Église glorifiée. Et cette Église glorifiée, eh bien, Paul nous parle qu'elle est actuellement sur la terre préparée à sa maturité spirituelle pour qu'elle arrive à la pleine maturité spirituelle. Alors, qu'est-ce que nous dit Paul ? J'aimerais simplement lire ce passage au verset Éphésiens chapitre 5, verset 25. Je prends la deuxième partie. Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Vous voyez, quelle importance à la parole de Dieu que nous entendons. Naturellement. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Le Seigneur va s'unir à une église qui a été préparée. Il n'est pas question des œuvres, il n'est pas question des dons, il n'est pas question des talents, il n'est pas question de tout ce que Dieu nous dote sur la terre, mais il est question du caractère de Christ en nous. Il est question de cette transformation de notre identité, de cette sanctification, de cette régénération, de cette nouvelle naissance, pour que nous soyons semblables à lui. Et c'est cette Église-là qu'il a préparée, qu'il est en train de préparer. Donc nous ne pouvons pas négliger l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, parce que quelque part nous préparons eh bien, cette rencontre, les uns et les autres. Contemplons quelques instants l'insigne privilège qu'a l'Église. Elle a été choisie, elle a été élue, elle est désirée, elle est distinguée. Jésus le dira d'une manière très claire dans Jean chapitre 15 et au verset 16, me semble-t-il. Il dira que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai élu, je vous ai appelé, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Le fruit dont il est question, c'est les fruits de l'esprit, c'est le caractère, pour que nous puissions être saints, irrépréhensibles, sans tache, et que nous n'ayons pas vieilli, parce que quand il est parlé de rides, ni rides. Quelqu'un qui a des rides, c'est quelqu'un qui marque, fait la démonstration de la marque du temps sur son visage. Eh bien justement, c'est un rajeunissement permanent. Et nous voyons que cette église-là, le Seigneur va s'unir, parce qu'elle a été rachetée au prix le plus élevé qui soit, parce que c'est le prix du sang. Mourant sacrifié, Jésus est mort sacrifié, pas pour lui, mais pour nous, pour elle, pour l'Église. Ainsi, son époux ne cesse de la chérir, de la protéger et partager avec elle son règne de gloire, de puissance et de majesté. C'est à cela que nous sommes appelés les uns et les autres. Cette Église a souvent été méprisée, écrasée, piétinée, pilonnée, dans le feu et dans le sang, à travers les siècles. Mais sachez une chose, et chacun d'entre nous, c'est pourquoi nous pouvons déjà nous réjouir et nous attendre à l'avènement du Seigneur, à son retour. Parce que notre destination, ça sera la gloire, ça sera la puissance et la majesté qui est celle de Christ et qu'il partagera avec son Église. Imaginez-vous, hein. Cette union est indissoluble. Il n'y aura rien à faire. Autant nous pouvons quelquefois être chahutés et persécutés et tentés peut-être d'abandonner, de l'autre côté, c'est fini, hein. C'est terminé. Les combats, la lutte, la guerre, ça sera terminé. Le diable, il ne sera plus là. On en reparlera la prochaine fois. Passons au verset 8. Il nous est rappelé cette parole. Alors, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Expliquons un petit peu de quoi il en retourne. Son épouse s'est préparée d'abord. Quel contraste avec la fausse épouse du chapitre 17. Vous en souvenez ? Qui est appelée la grande prostituée, qui est vêtue de pourpre, qui est parée de perles, d'or et d'argent. Mais cela n'est qu'une grandeur artificielle illusoire. La grandeur et l'illusion du monde, tout ça c'est de l'extérieur, c'est du tape à l'œil, c'est du clinquant, mais ça n'a aucune valeur. Quelle différence avec cette grande prostituée dont nous avons parlé. Par contre, la vraie épouse, elle est parée de fin lin pur, éclatant, nous dit le texte, qui laisse deviner la pureté et la sainteté parvenue à la perfection. C'est pourquoi Paul dira, et il avait déjà cette vision, il était prophète Paul, il avait déjà cette pensée du Saint-Esprit dans Éphésiens pour nous dire, mais elle serait irréprochable, sans tache. Alors nous pouvons prier et dire Seigneur et soupirer au fond de notre cœur, soit tous ensemble ou soit personnellement, et je crois que personnellement nous le faisons, Seigneur, débarrasse-nous de notre nature. Débarrasse-nous de nos ornières, de nos sillons dans lesquels nous tombons et nous aspirons à être comme toi, à te ressembler, Seigneur. Mais ça sera fait. Ça sera cela. Parce que nous serons revêtus de fin lin pur, qui ne seront pas le témoignage de nos heures et de nos œuvres et de nos efforts, mais tout simplement, la caractéristique sera parce que Jésus a payé, a accompli la justice de Dieu à notre place. C'est cela, éclatant. Le verset 9, l'ange me dit, écrit, il parle à Jean, l'apôtre, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, puis il me dit, ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles de Dieu. Heureux sont ceux. » Ça ne vous rappelle pas les béatitudes ? L'évangile a commencé avec quoi ? La bonne nouvelle de l'évangile a commencé avec « heureux ». Et il y a 7 béatitudes dans les évangiles, de Matthieu en particulier, on les avait étudiées ensemble. Et là, vous en avez 7 aussi dans l'Apocalypse, dans le dernier livre de la Bible, il y a 7 béatitudes. On n'a pas le temps de les passer en revue, peut-être le verrons-nous dans la suite de l'étude. Et ça sera le privilège de ceux qui sont admis au festin, tout simplement des noces. Mais le festin des noces, ça nous renvoie à une belle petite parabole que Jésus nous a laissée dans l'évangile de Matthieu, ainsi de même dans l'évangile de Luc, qui typifie la joie ineffable du ciel, dont les prémices terrestres, eh bien, en est tout simplement la communion de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une table qui est dressée, vous comprenez ? Il y a un repas substantiel. Il y a un repas spirituel. Il y a un repas qui nous rappelle que Jésus revient bientôt. Vous connaissez ? Il y a là la force pour chacun d'entre nous, fatigués et chargés de nos vies, bousculés par notre nature, tentés par le diable. À chaque fois que nous prenons le repas à la Sainte Seine, nous renouvelons nos forces en Christ et nous réaffirmons notre foi et nous réaffirmons notre attente. Notre aspiration, notre désir, en disant, comme le livre de l'Apocalypse le dira pour terminer, « Seigneur, l'épouse dit, Seigneur, reviens vite, reviens bientôt. » Tout simplement. Ou encore, de ce que le grand poète David, le roi David, avait écrit dans le psaume 23, « Tu dresses devant moi une table et ma coupe déborde. » Alors imaginez-vous que le repas des noces, ça sera tout ça et infiniment plus, parfaitement dans la sainteté, dans la dimension céleste. Tout est prêt pour s'accomplir, sachant que la parole de Dieu présente les fiançailles. C'est ce que nous sommes en train de découvrir dans les paraboles de Jésus, celles que je vous ai citées, paraboles des noces, etc. Prédudant donc les noces, quand Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait homme, venant payer la dot au calvaire. Parce qu'avant d'être époux ou épouse, on est fiancé. Et vous savez ce que Jésus est venu faire ? Les noces de l'agneau, ça sera vraiment l'accomplissement complet, la réunion de l'Église avec son Sauveur, de l'époux et l'épouse. Mais quand Jésus est venu pour la première fois sur la terre, c'est-à-dire accomplir ce pèlerinage terrestre et sanglant, c'était les fiançailles à ce moment-là. Nous sommes encore dans la période des fiançailles. Nous ne sommes pas encore dans l'union parfaite avec le Seigneur. Ça va venir. Et lui, il est venu payer notre dot. Enfin, on pourrait dire, il est venu payer la justice que Dieu réclamait pour nos forfaits et notre misère et notre perdition, et il a payé. Alors, ça se fait plus beaucoup, les dots, hein, dans notre monde aujourd'hui. Hein. C'est terminé. Il y a encore des sociétés qui fonctionnent avec la dot. Ça coûte cher. Hein. Pour les parents qui ont une fille. C'est comme ça. Hein. Mais toujours est-il que c'est ce que Jésus a fait. Donc, nous ne sommes pas encore dans les noces, mais nous sommes dans la période des fiançailles. Et on peut dire que, pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous, Christ devant Dieu a payé la dot pour que Dieu soit favorable. Mais il est favorable, il n'y a aucun problème. Alors, il reste donc à la future épouse de croire à l'invitation. Et c'est ce qui est fait dans l'évangélisation. C'est ce que nous sommes, nous sommes un peu les messagers qui allons de lieu en lieu, qui allons de ville en ville, qui allons là dans les carrefours, dans les chemins, etc. Vous savez, comme dans la parabole. Et nous dites, mais le repas est prêt, le festin est prêt. Allez, venez entrer parce que tout est préparé maintenant. Mais c'est vrai que tout est préparé, il n'y a plus rien à faire, l'évangile est accompli. À partir du moment où Jésus est mort sur la croix et que nous annonçons par la prédication, eh bien, le salut en Jésus-Christ, mais tout est prêt. C'est pour ça que les noces sont prêtes. Alors, pour nous, nous le savons et nous le croyons, mais nous avons à le dire, parce qu'il y en a tellement, des millions et des millions, voire des milliards encore qui sont dehors. Et ils sont invités tout pareil aux noces, hein. Aucun problème. Nous sommes l'image de ces serviteurs maintenant qui courront le monde pour dire, mais comme dans la parabole, venez, le festin est prêt, les bêtes grasses sont tuées, mettez-vous maintenant à table. C'est ça les noces de l'agneau. Bientôt le fiancé revient chercher celle qu'il aime pour la prendre avec lui. Combien de paraboles nous avons aussi données par Jésus d'une manière tellement touchante, tellement forte, sensible, pour nous montrer que le Seigneur revient bientôt. Ici-bas, dans le ciel, l'Église, ici-bas ou dans le ciel, l'Église attend ce glorieux moment. C'est pourquoi à un moment donné, il nous est dit « Soyez prêts hein. ». Vous connaissez l'histoire de la parabole des vierges folles et des vierges sages. Les 10 ont une lampe. Il y en a 5 qui ont de l'huile. 5 autres qui n'ont plus d'huile. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une lampe si vous n'avez pas d'huile ? Ça ne peut pas éclairer. C'est pourquoi il est dit « Voici l'époux, maintenant le temps est arrivé ». Le sceau de l'authenticité est réaffirmé par l'absolu. Certitude de réalisation. Il nous est dit, mais ces paroles sont les véritables paroles. Nous l'avons lu dans ce verset, il y a un instant, le verset 9. Ces paroles sont les véritables paroles. L'évangile, c'est l'authenticité. C'est la véracité de ce que Dieu dit. Et il n'y a pas autre chose. Les choses sont marquées en force. Elles sont marquées profondément. Elles sont, et là, nous pourrions dire scellées maintenant. Ce sont les véritables paroles. Jésus revient, et il revient bientôt. Qui l'attend ? Il y a parfois même dans les églises où on ne croit même plus au retour de Jésus-Christ. Eh bien, gardons cette vérité parce que c'est notre espérance. C'est notre secours et notre soutien. Et c'est ce que nous attendons. Les enfants de Dieu, les rachetés de la grâce, autant nous pouvons regarder vers la terre, mais nous devons surtout tourner nos yeux vers le ciel, parce qu'il revient bientôt. C'est une vérité. Ces paroles sont les véritables paroles. Verset 10 nous en dit plus. « Je tombai à ses pieds pour l'adorer, puisqu'il s'agit d'un ange. L'ange me dit, un peu plus loin, « Alors je tombai aux pieds de l'ange pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. » Qu'est-ce que ça veut dire? Le verset 10 que nous venons de lire, que je viens de lire, ouvre une fenêtre sur la compréhension du monde mystérieux des créatures célestes. Entendez par là le monde des anges. Ouais. Le monde des anges. Jean, transporté par l'inouïe révélation, et depuis les premières pages de l'Apocalypse, c'est une révélation qu'aucun homme n'aurait pu imaginer. Alors il est bouleversé par cette révélation sans précédent. Et là, quand il est question des noces de l'agneau, il tombe à genoux et adore l'ange. Et Jean est un homme. Nous sommes des hommes de la même nature que Jean. Et quand il s'agit d'une intrusion dans notre monde physique, matériel, une intrusion d'esprit, ou c'est pas, parce que apparemment ça a l'air d'être bien défini, mais de créatures venant d'un autre monde, alors à ce moment-là, eh bien, il tombe au pied de l'ange et il adore. Mais il est aussitôt repris par l'ange lui-même qui lui dit « Adore Dieu ». À la base de beaucoup de fausses doctrines qui ont pénétré dans le christianisme et qui demeurent encore aujourd'hui dans l'Église historique, quelle que soit son appellation, quelles que soient les dénominations, eh bien, c'est le culte des anges, ou des créatures, ou des êtres créés par Dieu. Dans toute la multiplicité des propositions de prière ou d'adoration qui est faite aux hommes, les saints, les saintes, et puis bien d'autres choses, on s'aperçoit que c'est ce que Paul dénonce dans Colossiens, si mes souvenirs sont bons, dans le chapitre 2, quand il est dit « Ne vous laissez pas aller à un culte des anges ». Comprenez? Vous l'avez vu ça, vous l'avez lu naturellement. Et nous voyons que l'ange reprend l'apôtre Jean et lui dit « Mais adore Dieu ». La Bible définit la mission des anges à travers ce passage que vous connaissez, mais que je vais relire, je vais prendre la peine de le relire parce qu'il est important. La mission des anges, la parole nous dit, elle répond, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ?» Quand il y a eu intrusion des anges dans notre monde, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, c'est parce qu'ils se sont des messagers de Dieu, pour favoriser, pour aider les hommes à parvenir au salut. Mais pas pour être adorés, pas pour remplacer celui qui est le véritable sauveur. Donc cette mission est de servir. Servir Dieu. Ils ne sont pas adorables. Et l'imagination religieuse les a présentés sous des aspects tellement infantile et puérile, hein, les angelots, comprenez, et toutes sortes de choses. L'homme n'a jamais été aussi productif dans son imagination, et particulièrement dans ce domaine. Alors, ils ne sont pas adorables, les anges ne sont pas adorables, parce que ce sont tout simplement des créatures. Paul le soulignera comme une formelle interdiction dans Romains chapitre 1er, il dira, mais l'homme, se croyant être sage, est devenu fou. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Que ce soit l'homme, son semblable, ou que ce soit des êtres appartenant à un autre monde. Et l'homme s'est perdu comme cela. Ça s'appelle tout simplement de l'idolâtrie. Nous avons bien compris que dans notre texte, les anges sont des compagnons, sont nos compagnons, d'une autre nature certes, mais ce sont nos compagnons. Et qu'est-ce que cette phrase, quand il est dit, le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire l'annonce à toute créature des plans et des desseins de Dieu en vue de son salut éternel. En d'autres termes, c'est l'Évangile. Ce témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. L'Évangile est prophétique. L'Évangile ouvre des portes pour justement que l'homme accède au salut. C'est ça, l'esprit de la prophétie. Jésus s'est fait prophète à certains moments dans ses enseignements. Mais tout l'ensemble de l'Évangile, même je dirais que même tout le Nouveau Testament, c'est l'esprit de Jésus et c'est l'esprit de la prophétie, tout simplement. Alors imaginez-vous quelle grâce Dieu nous a fait de parvenir à entendre l'Évangile, à croire l'Évangile et à vivre l'Évangile. C'est extraordinaire. On ne mesure pas, mais on le comprendra de l'autre côté. C'est la proclamation de toute la Bible, de la Bible entière, le fond de la prédication et de la vie chrétienne. C'est ça. La foi, le salut, l'éternité au cœur desquels Jésus est présenté comme seul et unique Sauveur et Seigneur. Tous les organes de cette glorieuse révélation qui nous sont exposés à travers l'Évangile que nous lisons sont donc égaux entre eux, anges et hommes. Et nous sommes les organes de tout cela. Les anges servent la cause de l'Évangile, les hommes servent la cause de l'Évangile, enfin, les chrétiens en tous les cas. Et on est tous égaux. Et ils ne doivent aucunement s'entre-adorer. L'interdiction est faite, elle nous est donnée, elle nous est rappelée. Par contre, c'est bien au diable, le capteur d'adoration, si je peux m'exprimer ainsi, que Jésus a dit cette parole, comme nous le lisons, comme nous le trouvons dans Matthieu chapitre 4, et vous connaissez cette parole, quand il nous a dit ceci au verset 10, Jésus dit, après avoir été tenté dans le désert, il s'adressera au diable, il retournera. Finalement, cette tentative de l'adversaire à amener Jésus à l'adorer, il dira ceci, Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. Et vous savez ce qui s'est passé, il nous a dit, moi le texte est devant les yeux, alors le diable laissa. Voilà. Parce que lui, c'est le détourneur, le capteur d'adoration. Déjà dans le jardin d'Éden, il a attiré l'homme par tout simplement la séduction qu'il a exercée sur Ève, ensuite sur Adam et sur tout le monde entier, sur toute l'espèce humaine, pour se faire adorer à la place du Créateur, à la place de Dieu. C'est ça le drame de l'humanité, c'est ça la chute de l'homme, c'est ça la perdition des hommes. C'est que l'adoration, elle devait revenir uniquement à notre Créateur et Seigneur. Et le diable est intervenu. D'ailleurs, vous le lisez dans le livre d'Ézéchiel, il nous est dit qu'il a été chassé, il a été... parce qu'il est tombé dans l'orgueil, tout simplement. Nous en arrivons au verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. » Écoutez bien, ça va vous rappeler quelque chose. « Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Jésus revient, nous l'avons dit, mais là, c'est vraiment le signe de son retour. La seconde venue, sa seconde venue est, aucun doute n'est possible, ce cavalier n'est autre que le Seigneur des Seigneurs, Jésus qui entre dans son règne invisible, règne d'ange de gloire et de majesté. Et ça nous ramène à ce que nous avons déjà étudié ensemble dans l'Évangile, dans l'Apocalypse au chapitre 6 et au verset 2. Écoutez, c'est la même signification. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens, je regardais et voici, parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il n'y a aucun doute, c'est Christ, ce cavalier sur ce cheval blanc. Il n'y a pas. J'ai entendu différentes interprétations. Certains sont venus me voir en disant « Mais non, c'est pas ça, c'est autre chose. Ce cavalier-là, il fait partie de l'autre camp. » Non, pas question. C'est dans toute la force de sa suprême autorité qu'il apparaît. Hier, il était venu assis sur un ânon, qui était le signe de son humiliation. Maintenant, c'est sur un cheval blanc, symbolisant la victoire au combat. Cette guerre contre les injustes n'est que justice, parce qu'il est appelé fidèle et véritable. On va passer au verset 12 et 13. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son regard embrase ses ennemis comme une flamme de feu. Sur sa tête, il y a des diadèmes. Ce n'est plus la couronne d'épines du calvaire, vous en souvenez, mais l'insigne du couronnement proclamant que Christ est roi sur toute chose, sur la terre et dans le ciel. Maintenant, le temps est arrivé. Maintenant, les choses, sont remises entre les mains de Christ parce que nous approchons du renouvellement, finalement, de tout ce monde. Son nom écrit traduit la réalité de son être profond et de son œuvre accomplie à la perfection. Jésus est saint, Jésus est parfait, Jésus est Dieu. À la perfection. On ne peut pas dire autre chose. Et son nom est écrit. Parce qu'il a été de la création jusqu'à la rédemption. La création a été corrompue par le péché de l'homme, et lui, il est venu pour faire le rachat, rédemption, racheter, sauver. Parce qu'il est la parole vivante, ce que l'on appelle le Logos. C'est ce qui nous est décrit, si vous voulez faire une comparaison, avec le chapitre 1er de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. À la fin était la parole. Parole de création et parole de rédemption. Revêtu d'un vêtement taché de sang. Vous remarquerez que ce n'est plus celui de sa mort à la croix, mais le sang de ses ennemis qui sont vaincus. On va en parler d'ici quelques instants. On continue avec le verset 14. « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Apparaît le roi vainqueur et son armée qui est une armée céleste, qui est à sa suite. Hier, la terre était envahie par des armées d'occupation d'esprits impurs, qui nous étaient présentées par les sauterelles. Vous vous souvenez ? Qui montait de la terre. Maintenant, Christ est escorté de légions d'esprits purs et célestes. Leurs armes n'est autre que l'éclat de pureté et de sainteté. Autant les armées d'avant étaient de l'occultisme, du spiritisme, du satanisme, de toutes ces choses qui sont abominables, maintenant les armées de Christ, elles ne peuvent avoir que le caractère de Christ. Ce n'est pas possible. Sainteté et pureté. Ensuite, le verset 15 nous dit que de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Quel contraste entre ces deux positions. Hier, Jésus-Christ disant les paroles de grâce aux hommes, je suis doux et humble de cœur. Mais maintenant, il se présente avec une épée dans sa bouche. L'épée, la parole, qui frappe pour juger. Hier la grâce, maintenant le jugement. Hier le doigt de Dieu guérissant, maintenant la verge de fer qui brise toute résistance opiniâtre. Hier, les compassions divines pour tous les malheureux courbés de la terre. Connaissez, venez à moi. Aujourd'hui, l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. En conséquence, pour avoir refusé de porter le joug doux et léger du Seigneur, les rebelles plieront sous la verge de fer. Hier, le choix volontaire, mais désormais, ça sera un dictat infernal de la condamnation partageant le terrible sort de la grande prostituée et de la bête, et ça, c'est irrévocable. C'est la grâce. Nous sommes encore dans les temps de la grâce. Et nous invitons les hommes à accepter la grâce. Paul le dira avec des paroles sublimes. Je vous en conjure, je vous en supplie. Quand il dira ces paroles, il dira, mais acceptez la grâce de Dieu. Parce que s'il n'y a pas d'acceptation de la grâce de Dieu, il ne restera que son contraire. C'est-à-dire la condamnation, l'exécution de cette condamnation, le jugement et la condamnation. C'est terrible. Le verset 16 poursuit. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est un cavalier. Il est monté sur un cheval blanc. Un nom écrit sur sa cuisse, sur son vêtement. C'est-à-dire, pour un cavalier à la bonne hauteur, assis sur sa monture, pour être vu et lu. Un cavalier, quand il passe, il est déjà toujours en hauteur. Et bien sûr, sa cuisse et sur son vêtement, il y avait le nom pour que son nom puisse être vu. C'est une vue, hein, tout simplement. Et il y a dans ce nom, roi des rois, seigneur des seigneurs, Christ domine sur tous ceux qui sont élevés en dignité. Son titre est divin et royalement céleste, afin de se faire reconnaître dans son autorité suprême, à tel point que nous entendrons une autre parole dans l'Évangile qui nous dit « Tout genou fléchira devant Jésus, devant le Seigneur ». On passe très vite, 17 et 18, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu ». Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Alors vous allez voir de quoi il s'agit à travers cette présentation. Il s'agit de l'ultime vision de la fin du monde impie et son sort final des ennemis de Christ. Le triomphe apparaît en pleine lumière, il nous est dit dans le soleil. Les hommes ont travaillé dans l'obscurité, dans les ténèbres, mais maintenant le jugement va arriver à la lumière. Et quel contraste entre le festin des noces de l'agneau que nous avons vu dans le début du chapitre 19, il y a quelques instants, et le grand et épouvantable festin de Dieu, qui va voir des choses terribles. Cette humanité, au paroxysme de la corruption, n'est plus que chair. Chair dévorée par les oiseaux, volant au milieu du ciel, il nous est dit, parce que l'homme... Certes, créature de Dieu, mais l'homme est devenu, et plus que jamais, marqué sous le signe de l'animal. Ouais. La chair, l'animalité, voire même la bestialité. L'homme animal est dépourvu totalement d'esprit. Nous pouvons bénir le Seigneur de ce qu'il nous a pris dans notre condition de perdition charnelle, humaine, naturelle, pour nous amener par la nouvelle naissance à devenir des hommes et des femmes spirituels. Et nous avons beaucoup à travailler pour devenir spirituels encore. Mais néanmoins, nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Nous avons maintenant une autre nature. Et ce monde-là, le monde de l'homme, le monde qui ne connaît pas Dieu, qui a rejeté Dieu, qui maudit Dieu, qui jure après Dieu, c'est une vision morbide. Et sans distinction de rang, de classe et de condition. On l'a lu, hein, les chefs, les rois, etc. Tout le monde va y passer. La chair et l'instinct animal, primaire, bestial, je l'ai déjà dit, c'est opposé à Dieu et à son esprit de vie, de grâce et de vérité. Parce que ce que Dieu demandait à l'homme, c'est de croire que ce qu'il disait, c'était vrai. Ce qu'il lui proposait, c'était la vie. Et que Dieu, à travers Jésus-Christ, avait traché un chemin qui s'appelle Jésus. Et l'homme s'est opposé, et il s'oppose encore, et plus que jamais. Et nous voici, écoutez bien, nous voici au cœur de la bataille d'Armageddon. Vous voulez savoir Armageddon? Eh bien c'est entre le... C'est ça les versets là, vous les avez devant les yeux, hein, à partir du verset 17. C'est ça Armageddon. 19 et 20 maintenant. « Et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. » Armageddon, dans la vallée de Jisraël, en plein cœur d'Israël. C'est ici. Et la bête fut prise. Et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges pour lesquels il avait séduit tous ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est ici, à ce moment même où nous avons pris cette lecture, c'est ici le dernier sursaut d'opposition mené par la bête, donc le système, et son exécuteur, l'Antéchrist. Cela se solde par un immense carnage qui réalise l'entière victoire de Christ lors de son retour sur terre. Ce qu'on appelle la parousie, on y reviendra. Oui, vous vous souvenez, il est venu, il reviendra une première fois pour enlever son Église. Et nous montrons, c'est l'enlèvement de l'Église, et nous montrons à sa rencontre. Mais il revient, appelé théologiquement la parousie, pour juger les nations. Et c'est ça dont il est question. C'est ça là dont il est question. Armageddon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un lieu qui s'appelle colline de Megiddo, donc au cœur d'Israël, hein, ou lieu du jugement. Et ça a un autre nom, lieu des multitudes, parce que les hommes, pour combattre Israël, vont, toutes les nations vont se réunir là, à cet endroit-là, pour détruire Israël. Mais ça fait 4000 ans qu'ils veulent, hein, qu'ils le désirent. Jusqu'ici, ça faillit, mais ça n'est jamais arrivé. Et ça n'arrivera pas encore cette fois-ci. Il nous est dit qu'à ce moment-là, à l'issue de cette bataille d'Armageddon, la bête fut prise avec le faux prophète. Le jugement de ces deux-là diffère des autres coalisés. Parce que vous avez des nations, vous avez des rois, etc. etc. Mais ces deux-là, la bête et l'antéchrist, hein, leur châtiment est d'être jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Parce que leur spiritualité est une spiritualité infernale et qui aggrave leur condamnation. Les nations, ils ont été entraînés. Ils ont été entraînés volontairement. Ils ont dit oui. Mais ils n'auront pas le même sort. Enfin, pas tout à fait la même chose pour l'instant. Ils vont là d'où ils viennent. Le système, enfin, disons, la bête et l'antéchrist. Et d'où ils viennent? Ils viennent de l'enfer, tout simplement. L'étang, qui est l'image du Sheol, de la Géhenne, d'où l'on ne ressort jamais. Par définition, c'est un endroit où les eaux ne s'écoulent pas, où il est clos et tout est croupissant dans ce lieu-là. L'enfer est le monde stagnant du mal et par conséquent, les damnés ne cessent de se corrompre. C'est comme ça. S'il n'y a pas de réponse à l'appel de Dieu pour la pureté et rentrer dans la dimension à laquelle nous sommes appelés, alors automatiquement, ça sera le contraire. Ça sera le mal et encore le mal, la corruption, le mensonge. Et ça, l'enfer, c'est tout simplement l'absence de Dieu. Totale, complète. Dieu n'est pas absent de ce monde, bien qu'il y ait du mal. Il n'est pas absent. Mais de l'autre côté, ce sera l'absence totale et complète. Et Jésus nous le dit, hein, « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et je termine avec le verset 21. « Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Si vous lisez dans les prophètes de l'Ancien Testament, et je pense, me semble-t-il, Zacharie, vous verrez ce que c'est la bataille d'Armageddon. C'est épouvantable et terrible. Il nous est dit les autres. En d'autres termes, les suivants et les adorateurs de la bête, il nous est dit qu'ils furent tués par l'épée, c'est-à-dire tués à la guerre en quelque sorte. C'est emblème de la parole de Dieu qui tue, tué par la parole. Normalement, la parole de Dieu est faite pour sauver, mais là, dans ce cas-là, ça sera pour tuer, ça sera pour détruire, pour juger. Et ils sont mis à mort physiquement, ça sera l'effroyable carnage de la guerre d'Armageddon. Ils seront mis à mort physiquement pour passer plus tard par le jugement dernier. Et on le verra la fois prochaine, c'est au chapitre 20. Mais attention, je termine sur cette note, retenez bien parce que ça sera la suite. Attention, cependant, il reste encore un ennemi. Je ne sais pas si vous l'avez deviné déjà. Un ennemi, celui qui a tout manipulé depuis le commencement, il s'appelle le serpent ancien. Il s'appelle le dragon, Satan. Sa défaite survient dans l'épisode du chapitre 20. On le verra. À travers tout simplement... Eh bien là, le thème de ce chapitre 20, c'est Satan qui est lié et qui est délié. On parlera du millénium, qui sera une dispensation tout à fait particulière, et on parlera du jugement dernier. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, on va prier simplement, et que Dieu véritablement nous donne de comprendre ses paroles, qui certes ne sont pas faciles, mais néanmoins, eh bien, Dieu veut nous instruire, et nous montrer qu'il revient bientôt. Et nous voulons lui dire, viens Seigneur Jésus, reviens bientôt, nous t'attendons. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, et nous voulons te bénir Seigneur, parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur, parce que ta parole est un trésor. Ta parole Seigneur, c'est une perle de grand prix. Ta parole Seigneur, c'est l'infini divin et céleste. Et aujourd'hui Seigneur, si nous connaissons partiellement. Oh, nous connaissons vraiment d'une manière tellement fragmentaire, tellement petite. Mais un jour, Seigneur, tout cela, eh bien, ça sera la réalité, Seigneur, du monde nouveau, Seigneur, dans lequel tu nous attends. Et nous, nous voulons croire que tu reviens bientôt pour enlever ton Église, pour sauver ton peuple. Et nous te bénissons et nous te remercions, mais tu reviens également, Seigneur, parce que tu veux mettre de l'ordre dans un monde de désordre. Tu veux amener la paix dans un monde de guerre. Tu veux amener la vie, Seigneur, dans un monde de mort. et nous te louons et nous te remercions. Mais en attendant, nous voulons nous réjouir parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'aller aux noces. Mais pas n'importe quelle noce, les noces de l'agneau. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et là, nous pouvons parler de félicité. C'est la béatitude céleste et parfaite et éternelle. Merci Jésus. Amen. Amen.